Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mon prénom c'est David, j'ai un nom de famille, Rossé, et je suis un des pasteurs de cette communauté. Et puis, c'est une joie pour moi, même si c'est vendredi saint, de pouvoir fêter Pâques avec vous tous, se mettre à l'écoute de Dieu, au pied de la croix ce matin. C'est un peu une des premières fois que je fais, je crois, culte de vendredi saint depuis que je suis ici à la Fratte. Donc, merci d'être là et puis de pouvoir nous plonger dans cette réalité qui est le centre, le cœur de notre foi. Et puis en plus, comme c'est une première, je me suis dit que j'allais faire une double première, c'est que j'avais préparé quelque chose pour le partager ce matin. Mais hier soir, on a vécu un tellement beau moment que je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser comme ça, juste pour nous, le groupe qu'on était là hier soir. Alors je me suis dit que j'allais prendre un petit risque et puis vous partager ce que l'on a vécu hier soir. Alors j'ai préparé ma prédication hier soir et ce matin, et puis vous allez voir ce que ça donne. Je dois tout de suite préciser que c'est une œuvre collective, parce que hier soir on était réunis pour ce qu'on appelle une lectio divina. Et une lectio divina, c'est simplement une lecture divine, parce que nous, en tant que croyants, on pense que, et on croit que la Bible, ce n'est pas simplement un livre, et puis qui a plein de pages et plein de livres dedans, puis que c'est parfois un peu compliqué. On pense que c'est un livre qui est inspiré par Dieu, c'est-à-dire que il y a Dieu qui est derrière les auteurs humains ou avec eux, et puis que ce qu'ils nous transmettent, ça vient directement de la part de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu, on se met vraiment à son écoute, on voit qu'il y a vraiment des richesses qui sortent. Et puis quand on est en groupe, ce moment de lectio divina permet à chacune, chacun, d'exprimer ce que Dieu lui a dit ce soir-là à travers le texte. Alors du coup, cette prédication, ce n'est pas que mon œuvre, c'est l'œuvre aussi de tous mes frères et sœurs qui étaient autour de moi hier soir et puis qui ont chacune, chacun, perçu quelque chose de ce que Dieu leur avait dit à travers ce texte. Il y a vraiment une belle richesse dans ces moments-là et puis on se rend compte que c'est une parole vivante, la Bible. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité qu'on peut expérimenter entre frères et sœurs. Alors, je vous invite à faire un petit effort d'imagination. Vous imaginez qu'on n'est pas à Nyon en 2022, mais qu'on est à Jérusalem en 33 à peu près, il y a 2000 ans. Et puis que là, on est dans une chambre haute, une chambre qui a été préparée à l'avance par les disciples, et puis il s'apprête à fêter la Pâque juive. Et puis là, Jésus, il rassemble autour de lui, non pas sa famille, comme nous, on a peut-être l'habitude de le faire, mais il rassemble ses disciples, ses amis. Ceux qu'il aime, ils sont autour de lui. Ils sont 12 autour de lui. Et puis, il prend la parole, et c'est ce que nous allons lire maintenant. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Il le leur donna en disant, « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté, un peu comme nous, ils sortirent vers le mont des Oliviers, et Jésus leur dit, « Il y aura pour vous tous une cause de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons seront dispersés. Mais après mon réveil ou après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Et Pierre lui dit, « Quand cela serait pour tous une cause de chute, cela ne le sera pas pour moi. » Jésus lui répond, « Amen. » Je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, toi, tu m'auras renié par trois fois. Mais lui n'en protestait que davantage. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils arrivent au lieu nommé Gethsémani. Et là, Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous là. » Pendant que je vais prier, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez. » S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revient et il trouve ses disciples endormis. Il dit alors à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revient à nouveau et les trouve endormis, car ils avaient les yeux lourds. Et ils ne savaient que lui répondre. Il vient pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. » C'en est fait, leur est venu, « Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous et allons. Celui qui me livre s'est approché. » Et jusqu'ici la lecture de l'Évangile, Marc 14, et versets 22 à 44. Tout dans ce texte, pour moi, nous dit que Jésus épouse notre condition humaine et il la transforme. Jésus épouse notre condition humaine la plus profonde, la plus essentielle, celle qui dit qu'un jour, nous tous, nous allons nous retrouver comme lui face à notre propre mort. Les plus grands philosophes se sont tous penchés sur la question, sur la question, parce que c'est la question philosophique par excellence, de ce face-à-face que nous devrons affronter, ce face-à-face avec la mort. Il y a quelque chose de très paradoxal. Dimanche dernier, on a présenté des petits-enfants au Seigneur. Et dès qu'on vient sur cette terre, on sait qu'on va un jour quitter ce souffle. Ce n'est pas hyper joyeux, pourtant c'est hyper fondamental. Et il y a quelque chose de très paradoxal. On présente des enfants, on se dit c'est la vie qui jaillit, c'est la vie qui est là. Et on sait pertinemment, puis on ne l'exprime pas très très souvent, mais on l'a tous un peu en arrière-tête, de manière plus ou moins prononcée, qu'un jour, on va rendre ce souffle. C'est un immense paradoxe qui est là, que dès notre premier souffle, on sait très bien qu'il ne sera pas éternel. Et Jésus, à Vendredi Saint, nous rejoint précisément jusque-là. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, ce n'est pas quelque chose que l'on peut juste savoir intellectuellement. C'est une parole, Jésus, qui est venu ici, sur cette terre, expérimenter, vivre jusqu'au bout la réalité de notre condition humaine. Le Verbe Dieu est venu jusqu'à nous pour nous rejoindre et nous tirer de cette condition humaine. Parce que cette condition humaine, il ne la laisse pas en plan. Cette condition humaine, marquée par la mort, il la transforme, il la fait aller plus loin. Il l'a fait aller au-delà de la mort. Et même dans ces moments tragiques où tout semble perdu, et c'est assez frappant dans ce texte, il y a de multiples signes de la réalité que la vie est toujours là. Jésus parle, non pas d'une ancienne alliance, mais il parle d'une nouvelle alliance. Il ne parle pas d'un vin ancien, il parle d'un vin nouveau. Il parle d'un royaume à venir qui est le royaume de Dieu. Tout ça, en sachant que bientôt, un jour plus tard, il allait être mis à mort. Et on voit déjà ces signes qui parsèment, même dans un récit tragique, la vie qui est plus forte que la mort. Et il annonce encore d'autres choses. Il annonce à ses disciples qu'il ne va pas les laisser en plan, mais qu'il va les précéder en Galilée une fois qu'il s'est réveillé. Et finalement, à la fin du texte, il dit « Levons-nous et allons ». Quelque chose de dynamique, comme pour affronter cette réalité de la mort, mais ensuite la transformer. Alors peut-être qu'on est souvent un peu comme les disciples, on n'y comprend rien. Parce que ce qui est sûr, c'est que les disciples, ils n'ont pas vu ces signes de vie-là. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était que Jésus allait rester à leur côté et puis qu'il allait faire tout ce qu'il fallait faire pour que la vie aille mieux et puis qu'il soit plus puissant parce qu'il allait les libérer ici-bas. Ils n'avaient pas vu, un peu souvent comme nous, voire même tout le temps comme nous, plus loin que le bout de leur nez, comme on dit. Et pour aller plus loin que le bout de notre nez, à Pâques, il faut une sacrée dose d'Esprit Saint. Parce que naturellement, on est exactement, même qu'on connaît toute l'histoire, comme les disciples, un peu focalisés sur notre petit monde qui nous entoure. Quand on dit que Jésus épouse notre condition humaine et qu'il va jusque-là, et qu'il veut la transformer, j'ai envie de dire que c'est tout un parcours de vie qu'il nous faut approfondir, qu'il nous faut aller chercher jusqu'au plus profond de nous. On ne peut pas tout comprendre du premier coup, c'est quelque chose qui s'approfondit. Et tout dans ce texte, finalement, nous dit par touche subtile à discerner que la mort n'a pas le dernier mot, tout simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour nous rassurer ou pour nous dire « j'ai un bon message, j'ai une bonne nouvelle, et puis ça va y aller ». Simplement, ce n'est pas la volonté de Dieu de laisser à la mort le dernier mot. Et cette réalité où Jésus épouse notre condition humaine, ça signifie vraiment la proximité qu'on peut avoir avec lui. Là, de nouveau, ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose qu'on expérimente, je crois, toujours plus quand on grandit dans notre vie avec Jésus. On expérimente que toujours plus, il est près de nous, près de notre cœur, près de ce que nous pouvons vivre. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé à votre Dieu saint d'aller lui rejoindre là où nous sommes le plus vulnérables. C'est-à-dire qu'un jour, on devra rendre notre souffle, on va rendre notre vie. Et moi, je trouve beau dans ce texte, c'est que cette proximité s'illustre aussi par des éléments beaucoup plus pratiques et concrets. À travers des terrains moins essentiels, peut-être moins philosophiques, cette proximité se manifeste à travers des gestes du quotidien. Il commence, ce moment tragique, par prendre un repas avec eux. Il ne commence pas par la Sainte Cène, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce n'est pas hyper religieux comme truc. Il commence par prendre un repas avec ses amis et partager des moments de convivialité avec eux et même avec celui qui va le trahir. Il l'invite à sa table et il partage ces moments-là. Partager le pain, partager le vin et les faire correspondre ensuite au corps, au sang qui nous façonne. On voit là encore la proximité avec ce Dieu qui est créateur, qui nous a façonnés avec un corps, avec du sang qui coule. Il nous rejoint là. Prendre un repas avec les personnes proches, les personnes que l'on aime. Chanter ensemble. Je n'avais jamais remarqué ça avant la lecture divine d'hier soir. Qui chantent ensemble durant ce moment-là, qui passent ce moment-là aussi dans la louange. Et nous avons besoin de ces temps et de ces espaces de proximité. Je crois qu'on est fait pour ça, les êtres humains. On est fait pour partager ces moments-là. Et ce que nous dit Jésus, c'est qu'il vient avec nous aussi dans ces moments-là. Il ne vient pas seulement avec nous dans des proximités philosophiques, mais il vient aussi avec nous dans des moments tout simples, tout pratiques de la vie. Alors je nous invite aussi dans ces moments de partage que nous vivrons certainement à Pâques, avec nos familles, avec nos amis, un peu comme à Noël, à prendre Jésus avec vous. À prendre Jésus avec vous dans ces moments-là, parce que simplement c'est une manière d'être vrai avec celles et ceux qui nous entourent, de se dire, ben voilà, moi, durant cette période de Pâques, j'ai une proximité particulière avec Jésus, et puis j'ai juste envie de vous la partager, parce que ça fait partie de moi. Puis ça peut être par différentes sortes, mais de se dire, je vous encourage, et je nous encourage, à prendre Jésus avec, à prendre cette proximité, lorsque l'on sera en proximité avec celles et ceux que nous aimons. Dans ce texte, cette proximité s'illustre aussi à travers ce que Jésus ressent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les mots qui sont employés, c'est des mots qui sont extrêmement forts de ce que Jésus ressent. Il ressent ni plus ni moins que l'angoisse et l'effroi. C'est peut-être les émotions les plus exigeantes à vivre pour nous en tant qu'êtres humains. S'il y a bien un ressenti difficile qu'on essaye de mettre le plus loin possible, ressenti qu'on n'aime pas traverser et vivre, c'est bien l'effroi et l'angoisse. Et dans la foi, Nous croyons aussi, en tant que disciples, que Jésus nous rejoint et qu'il est proche de nous lorsqu'on est dans ces sentiments-là. Je ne sais pas si on arrive vraiment à le prendre avec quand on est dans ces sentiments-là. C'est une difficulté majeure pour nous. Mais la foi nous dit qu'il est aussi là, dans ces situations, parce qu'il a décidé, à Gethsémané, de faire la volonté du Père et pas la sienne. Et on se rend compte une fois de plus qu'avec Jésus, on n'est pas face à un super-héros, un Superman qui va avoir tous les pouvoirs magiques. Ce n'est pas ça qu'il s'agit en premier lieu de retenir de Jésus. Même à travers, je crois, son activité de guérisseur, à travers son activité où il chassait les démons, son activité de puissance, il signifie avant tout par là que la mort n'a pas le dernier mot, que la souffrance n'a pas le dernier mot sur la vie humaine. Pour moi, tout ce qui est raconté dans les évangiles, toute cette activité de guérisseur, ça signifie qu'il est avec nous dans cette lutte pour la vie, qu'il est avec nous dans cette lutte contre la mort. On y voit effectivement des éléments spectaculaires, il y a des éléments spectaculaires, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il nous dit fondamentalement, c'est ce qu'il nous dit à Vendredi Saint. Je suis avec vous même dans ces circonstances-là. Je suis avec vous même lorsque vous éprouvez les pires émotions ou les pires sentiments de souffrance. Et puis encore une proximité qui nous a touchés hier soir, qui se manifeste dans l'attitude de Jésus vis-à-vis de ses disciples dans ce moment clé de sa vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, à sa place, je crois que j'aurais préféré vivre ces moments tout seul et surtout pas encombré de 2-3 boulets qui font que de dormir. Il aurait toutes les bonnes raisons de les laisser de côté pour vivre ces moments douloureux et d'être seul. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis mal, je préfère des fois être seul que mal accompagné. Eh bien là, il vit ses moments douloureux en étant plutôt mal accompagné. Et là encore, il nous dit cette proximité de nous, ses disciples un peu bras cassés, qu'il a quand même envie de prendre avec. Et ça, c'est une sacrée marque d'affection et d'amour. Il nous dit, même que vous dormez 2 ou 3 fois, alors que je vous ai demandé de veiller, ce n'était quand même pas la fin du monde, je reviens vers vous et je vous prends avec moi. Chaque fois, c'est beau, moi je trouve ces moments où Jésus retourne vers ses disciples, il ose un peu exprimer qu'il est exaspéré, mais il revient chaque fois vers eux. Il revient chaque fois puis il leur dit, allez les gars, je crois toujours en vous, vous pouvez être capable de veiller et de prier pour moi et avec moi. Et là, il y a une marque d'amour, d'affection, de proximité qui est aussi extraordinaire. Plusieurs ont souligné hier soir cette attitude de bon berger, alors qu'il avait toutes les raisons et les bonnes raisons de prendre du temps pour lui. Ça, c'est une expression qu'on aime bien actuellement. Prendre du temps pour soi. Jésus choisit plutôt de prendre du temps avec ses disciples. Proximité, encore une fois, qui se manifeste. Et finalement, on découvre cette proximité unique qu'il a avec le Père. Et cette proximité unique qu'il a avec le Père, qu'il nous transmet à nous par sa mort et sa résurrection. Il y a d'abord ce cri, cette appellation que je ne m'attendais pas à retrouver, je l'ai dit hier soir, cette appellation qui nous dit « Abba, Père ». Cette appellation qui veut dire vraiment qu'il y a une forme de tendresse, une forme d'affection, d'intimité, tout en maintenant le respect et cette différence entre Dieu et lui. Ce Abba Père-là, à ce moment-là, il signifie beaucoup. Parce qu'il sait où il va aller, il sait quelle est la volonté de Dieu. Il sait, comme tu l'as dit, Roger, qu'il y aura même ce moment de séparation, d'abandon. Et il crie à lui comme un enfant crie vers son père, comme un fils crie vers son père pour lui dire où il en est maintenant. Et je trouve ça magnifique de se dire que Jésus ose un dialogue en vérité avec son père. De nouveau, il ne fait pas le Superman face à ce qu'il attend. De nouveau, il ne joue pas à l'homme qui a des pouvoirs extraordinaires. De nouveau, il ose dire « Abba Père, là, je n'ai pas envie d'y aller. Là, je suis triste à mourir. Éloigne de moi cette coupe. » Vous imaginez ce rapport de vérité qui s'installe, ce rapport de confiance qui s'installe avec Dieu. Il va jusqu'au maximum de la vérité, jusqu'au maximum de la relation. Et à un moment donné, il a cette confession absolument extraordinaire. Il dit, mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas ma volonté à moi, mais ta volonté à toi. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il pouvait lâcher ce poids dans l'intimité du un à un entre Dieu et lui et affronter tout ce qu'il aura à affronter. On arrive à une forme de paroxysme où Jésus pousse au maximum où il a envie d'aller et ce qu'il ressent au plus profond de lui pour finalement se laisser aller dans les bras du Père. Et je trouve ça magnifique comme proximité et comme exemple de proximité entre Dieu et ce qui peut se passer aussi avec nous. Enfin, je crois que Jésus nous ouvre ce chemin de la proximité avec Dieu et je nous invite en tant que croyants, en tant que disciples, à oser cette proximité vraie avec Dieu. De ne pas avoir ces sentiments religieux de faire plaisir à Dieu d'une certaine façon, mais d'avoir plutôt l'envie d'être vrai devant Dieu et d'être aligné, d'être intègre. C'est souvent un terme qui revient dans la parole. Soyons des chrétiens intègres. Si on a peur, allons jusqu'au bout de notre peur et puis disons, ben, « Seigneur, là, j'ai peur. » Si on est angoissé, allons jusqu'au bout de notre angoisse et dire, « Mais Seigneur, là, j'ai pas envie d'y aller. » Pour pouvoir vraiment lâcher le truc, c'est-à-dire notre volonté d'être un peu crispé. Finalement, capituler, se laisser aller dans la volonté du Père. Il y a vraiment un paroxysme dans cette confession, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux. Je suis frappé par l'intensité de ce dialogue, l'intensité de cette communion. Et c'est finalement ce que je nous souhaite de vivre, au-delà des repas même encore, dans cette période de Pâques, c'est l'intensité vraiment de cette communion qu'on peut avoir avec Dieu. L'intensité de cette relation qui nous est proposée, de proximité, puis je crois que c'est une proximité qui grandit au fur et à mesure des années. Une proximité qui passe par différentes étapes, mais que particulièrement dans ce temps de Pâques, on peut expérimenter, qu'on peut faire nôtre, et qu'on peut approfondir. Or, je suis ravi que nous puissions mettre de côté ces moments, les mettre à part, finalement, prendre ce temps et vivre cette proximité avec Dieu. Et à l'instar des disciples, on a une occasion assez unique de vivre cette proximité avec lui à travers ce repas qu'il nous a proposé, que lui-même a institué, et que l'on appelle la Sainte Cène. Elle est sainte parce qu'elle est aussi à part. Elle n'est pas un repas ordinaire. C'est un repas saint parce qu'il a été institué par Dieu. Et c'est un repas qui dit véritablement notre proximité avec lui. Alors on va le partager ce matin en toute simplicité et aussi dans la foi commune. Parce que cette nouvelle alliance, elle est là pour une multitude, et ce matin, on est vraiment plusieurs, et ça me réjouit d'avoir beaucoup d'enfants aussi qui sont là, que cette multitude de l'alliance se sent, il est offert pour chacune, chacun d'entre nous. Alors que toutes les personnes qui ont envie de vivre, ce n'est pas une obligation, cette proximité avec Dieu, qui ont envie de l'expérimenter, puissent simplement prendre ce pain, prendre ce vin, ces éléments simples de la vie, pour dire et réaffirmer une nouvelle fois cette volonté d'être en proximité avec Dieu, avec notre Père.